Et c'est ma joie ce matin de vous présenter Dominique Guichard.
Alors pour moi, c'est une joie vraiment d'être avec vous. Tournons ensemble dans la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans Actes chapitre 5, versets 12 et 42. Et avant de lire ce passage, il est bon qu'on prenne le temps de se mettre dans la situation présente. Okay? Donc, on va reculer, faire un petit résumé des deux derniers dimanches. Okay? Alors, il y a deux semaines, quand on prêchait, quand je crois que c'est Richard qui prêchait il y a deux semaines, alors moi, je n'étais pas avec vous, j'étais à la pêche. J'espère que vous allez me pardonner, mais j'étais quand même avec vous en esprit. Donc, il y a deux semaines, lorsqu'il a prêché, il a parlé du chapitre 4 au verset 1, au moment où les disciples, les apôtres, hein, tandis que Pierre, je lis le verset 1 du chapitre 4, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple, les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçait en la personne de Jésus la résurrection des morts. » L'importance de ce passage-là, c'est qu'aujourd'hui, dans le chapitre qu'on va lire, dans les versets qu'on va lire, les trentaines de versets qu'on va lire, on revoit la même situation qui se répète. Donc, on défend aux apôtres de parler au nom de Jésus, et ils sont brassés un peu, mais ils les relâchent. Okay? Et il est intéressant de voir tout de suite après que les apôtres sont relâchés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et dans le même chapitre 4, versets 29 et 30, ils prient et ils demandent au Seigneur, « Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et juste pour faire le parallèle tout de suite avec le premier verset qu'on va lire ce matin, verset 12, mettez-le pas à l'écran, on arrive plus tard. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres, etc., etc. » Donc, on va voir qu'il y a un parallèle avec le passage du chapitre 4, la première arrestation, la première comparution devant le Sanhédrin, etc. La semaine passée, c'est notre frère Pasteur Ronald qui prêchait, et la multitude de l'Église, au verset 32, on voit que la multitude du chapitre 4, la multitude de l'Église ne formait qu'une seule personne, un seul cœur, une même âme. Ils avaient soin les uns des autres. Et au point que les chrétiens dans l'Église se permettaient de vendre leur terrain, vendre leur propriété, afin de partager avec ceux qui en avaient besoin. Et il y a un couple, Ananias et Saphira, qui eux-mêmes font la même chose. Ils vendent un terrain et ils en retiennent une partie en laissant comprendre, en laissant entendre, en disant qu'ils donnaient à l'Église la totalité de la vente de leur terrain. Et ce qui arrive, c'est que Pierre les confronte. Et il leur dit, t'as menti à Dieu, t'as menti au Saint-Esprit, et les deux vont mourir dans l'Église. Et là, le dernier verset, juste avant qu'on lise, le verset chapitre 5, verset 11, « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Alors, c'est sûr que si dans l'assemblée, tous ceux qui mentent, nés à mourir parce qu'ils ont menti, on n'aurait pas besoin de construire un nouveau bâtiment pour l'église de Rosemont, je pense. On aurait de la place en masse. Mais c'est sûr qu'ils s'emparent de l'église une grande crainte envers Dieu. Dieu est souverain, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Et maintenant, on va prendre le temps de lire chapitre 5, des versets 12 à 42. Actes, chapitre 5, versets 12 à 42. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre aux mains couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire, « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent emmenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu, je répète la phrase, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi et estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde de ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut un Théudas qui se nommait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après cela parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages, des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un beau récit, et vous voyez le parallèle avec le chapitre 4. Ils sont arrêtés devant la Sanhédrin pour une deuxième fois. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous instruis. Enseigne-nous ce matin à voir ce que nous pouvons mettre, nous, en pratique dans nos vies face à tous ces événements qui se passent à Jérusalem, avec les apôtres, avec ceux qui les persécutent. Merci Seigneur de ce que dans notre vie présente ici au Québec, à Montréal, tu nous donnes la liberté de pouvoir annoncer le nom de Jésus facilement, Seigneur. Nous ne craignons pas d'être arrêtés. Merci, Seigneur, de ce que nous pouvons annoncer la bonne nouvelle, l'espérance, la seule espérance pour l'éternité en Jésus-Christ. En Jésus, nous prions. Amen. Beaucoup de miracles se font parmi le peuple, par les mains des apôtres, au nom de Jésus. Bien entendu, ces miracles appuient tous les enseignements, toutes les prédications des apôtres. C'est sûr, ça fesse, parce qu'il y a toute la ville qui est touchée. Hein, à la fin du verset 2, ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et le peuple, on voit un peu plus loin, le peuple les louait hautement. Beaucoup croient au Seigneur, OK? Hommes et femmes. Et le peuple les loue. Alors, c'est sûr que les miracles, les guérisons, tout ça, ont beaucoup d'importance dans l'appui du message des apôtres. Verset 16. La multitude accourt même des villes et des villages voisines. Si on retournait dans Actes au début, juste avant que Jésus quitte la terre, il leur donne, Actes chapitre 1, verset 8, il leur donne une mission. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, on voit déjà que le message de l'Évangile, sans que les apôtres soient rendus en dehors de Jérusalem, on voit déjà que le nom de Jésus-Christ se répand jusqu'en dehors, au point que les gens de l'extérieur viennent voir les apôtres. Le message du salut, de la résurrection de Jésus-Christ, est fortement appuyé par les miracles, au point que ça a une répercussion loin. Bien entendu, ils n'ont pas tous les systèmes de communication qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas de Zoom, il n'y a pas de YouTube, etc. Mais de fil en aiguille, de bouche à oreille, on voit que le nom de Jésus-Christ est répandu. Rappelons-nous, c'est une réponse à la prière du chapitre 4, versets 29 et 30. Je vous l'ai lu tout à l'heure. « Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et si on avait continué le passage dans 4, on voit qu'ils annoncent avec assurance, et on voit les miracles, et on voit les résultats, même jusqu'à dans le chapitre 5, et dans le passage que nous voyons. Cependant, et là c'est le verset 17, « Cependant, le souverain sacrificateur et les sadducéens sont pas de bonne humeur. Hein? » Et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des sadducéens, se levèrent remplis d'amour. Non, c'est marqué, remplis de jalousie. La jalousie n'est pas bonne conseillère. Et on le voit avec les souverains sacrificateurs et les sadducéens, là, parce que là, ils sont choqués, jaloux. Alors, jaloux de quoi? Ben, en réalité, ce qui arrive, c'est que les apôtres, en ce moment, sont plus populaires qu'eux autres, sont plus beaux qu'eux autres, sont plus intéressants qu'eux autres, et les gens se tournent vers les apôtres plutôt que de continuer à suivre le leadership des sadducéens et du souverain sacrificateur, etc., remplis de jalousie. Intéressant de voir comme quoi que ils mettent la main sur les apôtres. De la manière que c'est cité, je ne le vois pas que ça se fait en douceur. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent en prison. Je ne vois pas que ça se fait en douceur. C'est la même gang, le même groupe que dans le chapitre 4. La même raison, la même jalousie, mais si on relit dans le chapitre 4, il n'y a pas la même violence. Il n'y a pas la même jalousie. Ce n'est pas cité comme ça. Ils ne sont pas contents, bon. Mais là, ils deviennent de plus en plus arrogants, de plus en plus choqués. Même que si vous allez au verset 33, ils sont furieux au verset 33. Alors, pensez à ça. Être jaloux et être furieux, c'est loin d'être de bons conseillers. Verset 19. « Mais un ange les délivre. » Alors, c'est ironique, parce qu'un ange vient délivrer les apôtres de la prison sans défoncer les portes et sans même débarrer les portes, parce que les portes restent barrées et sans que les gardes ne voient quelque chose. Pourquoi un ange? Vous savez, Dieu est ironique. Les Sadducéens sont des gens instruits, généralement riches et influents. Et deux des doctrines qu'ils ne croient pas, une, ils nient la résurrection. Alors, voyez-vous là, pourquoi ils sont choqués? Les apôtres prêchent la résurrection de Jésus-Christ. Les Sadducéens nient la résurrection. Quand on meurt, l'âme et le corps meurent ensemble. Fini. Ça, c'est une des choses qu'ils ne croient pas. Mais je reviens à mon côté ironique avec l'ange qui délivre les apôtres. Les Sadducéens nient l'existence des anges. Alors, Dieu est ironique. Il envoie un ange les délivrer. C'est sûr que certains ont dit que c'était peut-être pas un ange, c'est peut-être quelqu'un qui est venu les délivrer. Il y a beaucoup de choses, j'ai lu dans les commentaires tout ça. Mais c'est la parole de Dieu est claire. Et c'est Dieu qui parle quand on lit sa parole et il dit « un ange est venu les délivrer ». Si Dieu dit que c'est un ange, c'est pas le voisin, c'est un ange. Dieu n'est pas comme chacun de nous, Dieu n'est pas menteur, Dieu n'est pas à toutes sortes de paroles. Quand Dieu dit que c'est oui, quand Dieu dit que c'est non, quand Dieu dit que c'est un ange, c'est oui, c'est non, c'est un ange. Alors, pour les Sadducéens, ils sont perplexes. Et c'est là qu'on lit dans les versets, verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Vous savez, hein, quand un garde laisse échapper un prisonnier, c'est au prix de sa vie. Donc là, les gardes sont là, ils n'ont pas bougé. Les portes sont fermées, sont barrées, et il n'y a personne dans les... Et là, les Sadducéens, les commandants, tout ça, sont perplexes. Dieu est à l'œuvre. Et on voit l'obéissance des apôtres, versets 20 et 22, parce que l'ange leur a dit... Au verset 20, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Une leçon pour nous à apprendre. Ici, l'ange parle au nom de Dieu. Les apôtres prennent ça au sérieux. Ils viennent d'être arrêtés, ils sortent de la prison et ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent enseigner. Est-ce que vous pensez qu'ils savaient qu'est-ce qui allait arriver? Certainement, ils s'en doutaient. Ils savaient qu'ils n'étaient pas bienvenus dans le temple et ils savaient que qu'ils auraient des problèmes. Mais ils sont obéissants. Écoute, là, les commandants, souverains sacrificateurs, sadducéens sont perplexes. Mais là, je me dis, réveille! Réveille! Tout le message que prêchent Pierre et les apôtres est appuyé par toutes sortes de miracles, au point que ceux de l'extérieur de Jérusalem viennent et ils ont même hâte que Pierre passe, parce que si jamais l'ombre touchait celui qui est handicapé, malade, etc., il pourrait être guéri. La Bible ne nous dit pas que l'ombre de Pierre guérit des gens, mais les gens pensent ça. Et il y a beaucoup de guérisons. Et les gens, les habitants, louent les apôtres. Et là, en plus, ils sont délivrés de la prison. Écoute, on voit bien que les Sadducéens, le souverain sacrificateur, les commandants, le Sanhédrin, vous savez, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et c'est ce qu'on voit avec eux. Ils ne veulent pas comprendre que Dieu est à l'œuvre, avec les miracles, les signes, les prodiges, qui sont libérés de la prison. Peut-être que quelque chose se passe là, mais la jalousie rend aveugle. Versets 26 à 40. Ils sont arrêtés de nouveau. Hein, au verset 26, Hein? Mais là, il les conduit sans violence. Regardez le verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers, il les conduisit sans violence. Parce que le peuple aime les apôtres. Est-ce qu'ils aiment les apôtres à cause de la doctrine qu'ils enseignent ou à cause des miracles? Je pense que c'est peut-être les deux. Mais là, ils ont peur du peuple. Ils ont peur du peuple qui aime les apôtres. Puis en les arrêtant pour une troisième fois, là, ils ont peur du peuple, que le peuple lapide ceux qui les arrêtent. Alors, ils sont arrêtés. Le peuple est du côté des apôtres. Au verset 28, vous avez rempli, verset 28a, et là, c'est le Sanhédrin qui parle, il dit, on vous a défendu, verset 28, expressément d'enseigner ce nom-là, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et même, il pourrait dire, jusqu'à plus loin que Jérusalem. Frères et sœurs, le travail des apôtres était efficace. Ils ont rempli Jérusalem de l'enseignement. Ce sont de bons témoins. Le message prime au miracle. OK, c'est pas ce qu'ils disent, vous n'avez pas rempli Jérusalem de miracles. Il dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et l'enseignement, c'est le salut par Jésus-Christ que vous avez crucifié et qui est ressuscité. Ça, c'est la base de l'enseignement. Au verset 28b, on continue vers le même verset. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. J'aimerais qu'on tourne ensemble pour suite à cela, parce que quand Pierre parle au Sanhédrin, il les accuse du meurtre et de la crucifixion de Jésus-Christ. Tournons ensemble, on va voir Jésus qui nous parle dans Matthieu chapitre 23. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 23, et c'est Jésus qui parle au verset 29. Alors, je sais que c'est un petit peu long en passage 29 à 36, mais c'est tellement important ce que Jésus dit. Alors, Matthieu, chapitre 23, verset 29 à 36, qui dit, « Malheur à vous, c'est Jésus qui parle, il parle aux scribes, il parle aux scribes et aux pharisiens, aux dirigeants du temple, si on lisait plus avant, on le verrait très clairement. Il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres, dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur vous. » Déjà, Jésus l'avait annoncé, comme quoi que le sang de ceux qu'ils persécutaient retomberaient sur leur tête. Mais allons un petit peu plus loin, chapitre 27. Encore plus pétant de réalité. Chapitre 27 au verset 24. Matthieu 27, verset 24. Là, on est au moment de Jésus a été arrêté, Jésus est devant Pilate, et c'est même si on lisait le verset 12, il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Donc, les principaux sacrificateurs, les anciens, les pharisiens, tout ce groupe-là s'entendent pour pousser Pilate à crucifier Jésus. Verset 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort. Le peuple encouragé par les dirigeants qui crient ça. Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde ?» Et tout le peuple répondit, tout le peuple, incluant les dirigeants du temple, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » En réalité, ce que Pierre et les apôtres disent aux dirigeants, aux Sanhédrins, aux sacrificateurs et aux Sadducéens, il leur dit que le sang de Jésus va retomber sur votre tête. Vous avez crucifié Jésus. Et il réitère le message clair aux dirigeants, et on l'a lu tout à l'heure. Et la réponse de nos chers amis du Sanhédrin, tout ça, est au verset 33. Pas juste jaloux, comme j'ai dit tout à l'heure, furieux. Vous savez, la colère n'est pas une bonne conseillère. Alors, je pourrais demander à ma femme, à mes enfants, je suis un colérique. Je pète ma fuse de temps en temps. Je suis un colérique et la colère n'est pas bonne conseillère. OK? Et là, en ce moment, furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Non seulement ils ne sont pas juste jaloux, mais là, ils veulent les faire mourir. C'est l'attitude qu'avaient ceux qui ont arrêté les apôtres et Pierre. Verset 33. Ils veulent tuer les apôtres. Mais Gamaliel, et là, il y a tout le récit de Gamaliel. Alors, qui est Gamaliel? Bien, Gamaliel, on le connaît parce que Paul a étudié au pied de Gamaliel. Et on a bien vu ce que Gamaliel a enseigné à Paul, hein? La rigueur d'un pharisien. Gamaliel est un pharisien. C'est un petit peu particulier que c'est un pharisien qui parle aux Sadducéens. Puis les Sadducéens et les pharisiens ne s'entendent pas. Vu que, pour plusieurs raisons, mais entre autres, vu que les Sadducéens nient les anges, nient la résurrection, les pharisiens croient aux anges et croient à la résurrection. Alors c'est sûr que ces deux points vraiment qui rentrent en conflit les uns avec les autres. Et généralement, il y a toujours des débats contradictoires entre les deux partie des pharisiens et des sadducéens. Mais Gamaliel, un pharisien, il a l'air bien gentil, notre ami Gamaliel, parce qu'il dit, voyez, mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva devant le Sanhédrin et ordonna de faire sortir les apôtres. Puis il leur dit, homme Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il dit, rappelez-vous, qu'il dit, là, il donne l'exemple de Théudas. Ah, lui, là, il a levé beaucoup de monde, mais il est mort, puis toutes les autres se sont dispersés. Puis après, il parle d'un autre dont j'ai oublié le nom. Judas. Judas le Galiléen, même chose. Et il est mort et les autres se sont dispersés. Donc, il dit, si vous savez, il dit, il faut faire attention. Si cette affaire-là, si ce que prêchent les apôtres vient de Dieu, on ne veut pas être contre Dieu. Si ça vient des hommes, plutôt qu'il a dit au début, il dit, vous inquiétez pas, ça va mourir comme Judas le Galiléen et Théudas. Mais si ça vient de Dieu, on ne veut pas avoir lutté contre Dieu. Alors, ça paraît très, très bien pour M. Gamaliel. Ça paraît bien, surtout qu'au verset 40, ils se rangèrent à son avis. Cependant, la Bible ne nous dit pas que M. Gamaliel était du côté des apôtres, pas plus qu'il était du côté de Jésus-Christ, et encore moins que Gamaliel était un homme de Dieu, un homme de Dieu qui croyait en Jésus-Christ, loin de nous, parce qu'il ne prend pas vraiment la défense des apôtres et ne prend pas du tout la défense de Jésus-Christ. Il prend une défense politique. Il fait de la politique. Alors, voyez-vous, la politique ne date pas d'aujourd'hui, mais ça date de longtemps, ça, la politique. Et il regarde qu'est-ce qui pourrait être le mieux. Et n'oubliez pas qu'ils craignaient le peuple. Ils avaient même peur d'être lapidés par le peuple, parce que le peuple louait les apôtres, louait Pierre hautement. Alors, on voit que ce Gamaliel, il réfléchit et il fait de la politique. OK? Gamaliel n'est pas un protecteur des apôtres. Et il n'est pas un protecteur ou un défenseur de Jésus-Christ. Loin de cela. Cependant, quand même, c'est quelque chose à considérer. Il y a une certaine logique. Okay? Je ne dis pas qu'il y a une certaine spiritualité, mais il y a une logique. Hein? Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Et ça, c'est une vérité. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et c'est un verset que moi j'ai employé avec des gars avec qui je travaillais qui ne croyaient pas en Jésus-Christ. Mais j'ai dit, tu sais, j'ai dit, mettons que j'ai tort, que Jésus-Christ n'est pas un sauveur. Mettons que j'ai dit que ça, j'aurais rien perdu. Mais si j'ai raison et toi qui t'es opposé à Jésus-Christ, tu as tout perdu. En gros, c'est un peu ça que veut dire Gamaliel ici. Et là, il se range à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les font battre de verges et leur défendirent encore de parler au nom de Jésus et ils les relâchent. Les faire battre de verges est un châtiment très sévère. Très sévère. 40 coups moins 1. 39 coups. Plusieurs, dans les commentaires que j'ai lus, plusieurs de ceux qui recevaient ce châtiment-là mouraient suite à ce châtiment-là. Donc, c'est un châtiment sévère, très sévère. C'est le châtiment que le Sanhédrin, que les Juifs avaient la permission de donner au maximum que les Romains toléraient. N'oublions pas, ils sont sous l'Empire romain et ils ont des restrictions. Et ça, c'est la restriction. 39 coups, pas un de plus. Même en réalité, ils ont droit à 40, mais ils en donnent 39 pour être sûr de ne pas avoir donné 40 ou 41 coups. Okay? Peut-être qu'il y a de la misère à compter jusqu'à 40, je ne sais pas. Et là, on voit comme quoi que Dieu donne la force et le soutien aux apôtres. Parce que, lisons le verset 40. Ils se rangèrent à son avis, ayant appelé les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Et les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux. Les autres sont jaloux et furieux. Ceux qui mangent la volée, qui mangent des coups, c'est les apôtres, et eux ressortent joyeux. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et ça, les apôtres le savaient que ça arriverait, parce que Jésus le leur avait dit. Il dit, je ne vous ai pas appelé à la paix, mais je vous ai appelé à souffrir. Vous allez souffrir. Moi, j'ai souffert et ils m'ont mis à mort. Vous allez souffrir et ils vont vous mettre à mort. Et c'est ce qui est arrivé pour plusieurs des apôtres. Sommes-nous prêts, nous, frères et sœurs, à souffrir pour le nom de Jésus-Christ? Vous savez, quelquefois, là, juste le fait de témoigner du nom de Jésus-Christ, on est hésitant, on est peureux, pour seulement avoir quelqu'un qui va nous dire « Ah, t'es niaiseux » ou bien « Pour moi, c'est de la bêtise » ou « Pour moi, c'est une béquille ». Toutes sortes d'excuses, on nous dit qu'on ne veut pas entendre le message de Jésus. Et ça, c'est notre persécution qu'on reçoit et on hésite à partager le nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans ce temps de pandémie en ce moment, ce que Jésus-Christ fait dans ma vie, dans nos vies à ma femme et moi, c'est qu'il nous donne la paix dans un temps où on peut attraper quelque chose qui nous pourrait nous mener à la mort. Jésus-Christ, comme sauveur personnel, qui a tout pardonné mes péchés, donne la paix et une espérance éternelle. Et ça fait partie de la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle à quelqu'un, lorsqu'on parle à un ami, un voisin, nous annonçons la paix et l'espérance éternelle. C'est sûr, le choix revient à ceux et celles qui entendent le message, mais nous avons la responsabilité, comme les apôtres ont eu, que Dieu leur a donné dans Actes 1-8, et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et si vous regardez aujourd'hui, nous sommes 2000 ans plus tard, le nom de Jésus-Christ est prêché à grandeur de la terre. Oui, il y a quelques endroits encore non atteints, mais c'est impressionnant comment le nom de Jésus-Christ est prêché au-delà des frontières de Jérusalem. Et ces hommes-là, ces apôtres, sont joyeux. Ils ne sont pas pleurnicheurs. Ils sont différents de beaucoup de parmi nous. Lorsque nous avons une épreuve, on commence à se lamenter et à pleurer sur nos bobos. Et eux, ils sont joyeux. Et verset 42, « Chaque jour, dans le temple, dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tout en sachant que tout ce qui touche la direction, que ce soit la direction du temple, le Sanhédrin, les pharisiens, sadducéens, ou même les Romains, sachant que tous étaient en opposition. Chaque jour, ils annoncent la bonne nouvelle, car il n'y a d'espérance qu'en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça nous dit? Suis-je un bon témoin de Jésus-Christ? Même avant de dire « suis-je un bon témoin? » Suis-je un témoin de Jésus-Christ? Et même avant de dire « suis-je un témoin de Jésus-Christ? » Est-ce que je connais Jésus-Christ? Est-ce que tu connais Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Lui as-tu donné tous tes péchés? Lui as-tu demandé pardon pour tous tes péchés? Il veut pardonner tous tes péchés. Vous savez, Jésus-Christ sur la croix, la résurrection, il a pris la place de notre condamnation, la place de la condamnation du péché réservée à chacun de nous. Lui parfait est mort et ressuscité afin que nous, les pécheurs, puissions être sauvés. Le salut. Est-ce que nous sommes des témoins de Jésus-Christ? Est-ce qu'on partage l'Évangile avec nos voisins, avec ceux qui nous entourent? On est placé chacun de nous à différents endroits afin qu'on soit des témoins à différents endroits. Est-ce que nous sommes des témoins? Est-ce que nous sommes joyeux d'être digne de souffrir pour Christ? Jésus, Dieu, Christ, son Père, ont fait de nous des frères, des sœurs, des héritiers, des enfants d'adoption, afin que nous passions l'éternité avec Dieu. C'est une espérance éternelle. C'est une joyeuse espérance. Et sur la terre, nous allons passer, quand la parole de Dieu nous dit, 90 ans pour les plus résistants, mais c'est court, excessivement court, par rapport à l'éternité. Soyons de bons témoins. Soyons des témoins fidèles. Soyons des témoins qui ont un fardeau pour les âmes, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui passeront l'éternité en enfer. Ne cessons d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle comme les apôtres faisaient à ce moment-là. Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons sauvés, pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, pour que tous ceux qui m'entourent soient sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne et nous exhorte, travaille dans notre vie afin que nous soyons des bons témoins comme les apôtres. Amen.